Drainville PM. Faut que je te raconte.
Je parle français, oui, mais l'anglais, c'est aussi important, je pense, maintenant.
J'écoute ma musique en anglais, j'écoute mes films en anglais, la TV est en anglais.
Voici Michel Barrette.
Alors, ce que vous venez d'entendre, mon cher Michel Barrette, c'est un extrait de « I speak français ».
Speak français. Documentaire qui sera présenté à Télé-Québec très bientôt.
Documentaire présenté à Télé-Québec le 20 mars.
20 mars. Réaction ce matin, entre autres, de Sophie Durocher qui nous amenait quelques chiffres. Et notre réaction à nous, à savoir, est-ce qu'on a tellement... à force de protéger le français, on a-tu fini par faire croire à nos jeunes qu'il n'y avait pas de problème avec la protection du français, que le français était bien et protégé et tout, ce qui fait qu'ils ne se sentent pas coupables, bien sûr, de lire en anglais, regarder la télévision en anglais, de leur film en anglais, la musique en anglais. Alors, est-ce qu'on est en train de perdre... On est fiers lorsque... Bon, mon garçon Olivier parle français, anglais, allemand, espagnol et catalan. Je suis très fier de ça. Oui, catalan. Parce qu'il est très politisé, puis la cause catalane, c'était important pour lui. Il a tenu à apprendre la langue. Il travaille d'ailleurs, je ne dirais pas trop fort, il travaille actuellement en Europe, où il tourne en espagnol. Mais ce n'est pas au détriment de son amour pour la langue française. Mais est-ce que... Parce que les jeunes, on dirait que c'est pas grave pour eux. Ils se disent, mais non, je parle anglais, puis même à la limite, si j'avais pu l'apprendre avant, si j'avais pu avoir accès à une école anglophone dès le primaire, j'aurais été heureux de ça. Est-ce qu'on est en train de perdre? En tout cas, est-ce qu'on perd des... Est-ce que le français perd des poils?
Des plumes.
Il perd des poils.
Des poils aussi, peut-être.
Oui, juste des poils, pas des plumes.
Juste des poils?
Oui, c'est... J'ai plus.
Okay. Je t'explique. Mais là, je veux juste attirer ton attention sur quelque chose. Oui. Dans le documentaire « I speak français », puis c'est Sophie Durocher qui nous en parle, ils ont commandé un sondage.
Oui.
La journaliste Karina Marceau, là, qui fait le documentaire, a commandé un sondage. Et là, dans le sondage, tu as 60% des jeunes qui ont 18-24 ans qui disent « Nous autres, là, on serait favorable à retourner au libre choix comme c'était avant, c'est-à-dire si on veut aller étudier en anglais au primaire, là, on peut y aller. »
Donc, il y a un assouplissement de la loi 101, finalement.
Ben, c'est la fin de la loi 101. La loi 101, là, c'est pas compliqué. On a décidé en 77, tous ceux et celles qui viennent nous rejoindre, qui émigrent chez nous, doivent envoyer leurs enfants à l'école française, mais... Le choix qu'on a fait collectivement, c'est de se l'imposer à nous-mêmes aussi. Donc, nous autres, là, à moins là, que tu aies un parent qui est allé à l'école anglaise, là, tu as le droit à ce moment-là d'envoyer tes enfants à l'école anglaise. Mais pour le reste de la population québécoise, on a l'obligation d'envoyer nos enfants à l'école française. C'est le sacrifice, entre guillemets, qu'on a dû faire ou le choix qu'on a dû faire pour obliger ceux et celles qui viennent nous rejoindre à envoyer leurs enfants à l'école française aussi. Et là, tu as des jeunes qui disent, ben nous autres, là, cette obligation-là, on serait prêts à faire sauter ça.
Ça va plus loin que ça, Bernard. Parce que dans le même sondage, le chiffre monte à 91% des jeunes de la ville de Québec qui seraient d'accord à un retour d'avant la loi 101.
Au libre choix. Au libre choix, comme on l'appelait. Ouais. Alors, on va vous demander, cher public, 790-9850, 98985, est-ce que vous pensez que le temps est venu de remettre en question, dans le fond, la loi 101, puis de dire, bon, ben là, on revient au libre choix, parce qu'on veut absolument que nos enfants apprennent l'anglais, puis c'est peut-être même plus important maintenant que nos enfants parlent anglais que français. Il y en a qui pensent comme ça, Michel, tu
parce
le sais.
Il y a le parler anglais, il y a le parler français, mais il y a l'écrit aussi. Parce que lorsque je vois les mails, tu vois, des courriels envoyés des fois, c'est horrible. Des fois,
les textos, quand ils nous écrivent. Hey. Moi, j'en ai trois, là. J'ai Lambert, Rosalie, puis Mathis. Puis écoute, quand je lis les échanges qu'ils ont entre amis, c'est affreux. Mais affreux. Ils s'en foutent.
Oui, on se comprend.
Ils lisent au son.
Exactement. Alors, si en plus, on privilégiait l'apprentissage déjà de la langue seconde dès le primaire, c'est-à-dire l'anglais dans le fort des cas, imaginez de quoi aurait l'air non seulement le parler français, mais l'écrit français.
Oui, mais toi, là, juste avant d'aller à l'appel, là, parce que là, ça rentre, là, les appels, tant mieux. Toi, là, est-ce que tu serais... T'es-tu d'accord avec ça, toi, de dire on fait sauter l'obligation d'envoyer nos enfants à l'école française pour le primaire et le secondaire? Parce qu'on s'entend qu'à partir du cégep, on peut les envoyer dans un cégep anglophone, puis on peut les envoyer à l'université McGill ou Concordia, là. Le mien est à la McGill. Mon plus vieux est à la McGill, tu vois, par exemple. Bon, okay. Il parle bien anglais, mais on s'est assuré qu'il maîtrise bien la langue française, puis il est revenu avec l'espagnol quand on est allé au Mexique.
Bon, justement, il est en train
de finir là, son bac en Espagne, là, tu vois, bon.
Mais là, moi, je suis plutôt, peut-être que je suis vieux, là, je suis plutôt par immersion, c'est-à-dire que je suis très content que mes enfants aient une éducation en français. Ouais. Je suis très content quand je vois mon plus jeune, celui qui a 12 ans, qui écrit, à la limite, mes grands ne sont pas contents, en tout cas, concernant peut-être Martin et Nicolas, qui écrit mieux son français que ses grands frères, mais en même temps, par immersion, parce qu'on a quand même voyagé beaucoup avec les enfants, ils ont appris l'anglais par immersion, c'est-à-dire en étant dans les lieux où il y avait beaucoup d'anglophones, bien sûr, en voyage, où ils se sont fait des amis. Je pense à mon petit gars qui, sur les différents terrains de camping ou dans les hôtels, bon, les endroits où on allait, mais il était obligé, à quelque part, de se forcer pour comprendre. Et a fini, il parle, mon fils de 12 ans parle mieux français que je le parlais, bien sûr, à 12 ans.
Ah ben oui, ça c'est... Alors, on a beaucoup d'appels, Michel. On s'en va rejoindre Yves. Bonjour, Yves.
Oui, bonjour. Ben moi, je travaille pour... je travaille dans le domaine de la technologie, là, surtout à Montréal.
Ouais.
Puis, faut se rendre à l'évidence, le français se perd à Montréal. C'est sûr, dans les régions, on le garde. Mais à Montréal, ça se perd, c'est peine perdue. Moi, je suis un ancien souverainiste, là, quoi, je ne le suis plus. Il y aurait peut-être le seul correctif que je pourrais voir, c'est peut-être essayer de le parler mieux le français, puis d'enseigner un meilleur français à l'école. Oui. Pour avoir voyagé partout dans le monde, autant en France, en Italie, aux États-Unis, pour ma compagnie, je peux vous dire que lorsqu'on arrive en France, malgré qu'ils utilisent quelques mots en anglais, c'est sûr qu'ils aiment bien le parler, puis aiment bien la musique anglaise là-bas. Ils sont quand même fiers de leur langue, puis l'immigrant qui arrive ici au Québec, je le vois mal avoir un attachement à notre langue qui est quand même mal parlée en général. Fait que je me mets à la place de l'immigrant qui arrive ici, je suis pas certain qu'il...
Vous êtes pas certain que si vous étiez à sa place, vous auriez le goût d'apprendre le français quand ils l'entendent parler dans notre bouche, là.
Malgré que je suis très fier d'être francophone, d'essayer de le parler le mieux possible, je me mets à la place de l'immigrant. Puis je suis pas certain si j'en étais un, si je faisais partie d'un de ceux-là, si je serais si intéressé d'apprendre une langue, malgré tout, aussi mal parlée.
D'accord. Merci Yves pour l'appel. Merci. C'est très clair. On en parlait ce matin, hein, Michel, toi et moi, avant de... Parce que pour les auditeurs, là, on se parle le matin, nous autres, avant l'émission, puis tu me disais ça, que peut-être que si on la parlait mieux, elle serait peut-être plus attrayante.
Si on la parlait mieux, je ne suis pas très bien placé pour défendre la cause, mais si on en parlait mieux, on serait peut-être justement mieux placé pour la défendre. Et en même temps, tu vois, mon fils, je reviens à mon fils de 12 ans, que je vais reprendre sur des phrases... ou que je vais tenter de lui expliquer qu'il fallait utiliser des mots différents maintenant pour s'exprimer, et qu'il s'exprime, je le répète, beaucoup mieux, avec un langage et une réflexion, sa réflexion à lui, lorsqu'il exprime son langage, parler français est beaucoup mieux que ce que nous étions, je pense, à son âge à l'époque.
Alors, tant mieux. Joanne, excuse-moi, comment tu dis?
Alors, tant mieux, mais...
Oui, bien sûr.
Oui,
bien sûr. Joanne, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Très bien. Très bien, on vous écoute.
Oui. Moi, en fait, mon opinion là-dessus, c'est que le statu quo, non. Complètement, là, je ne les broche pas à partir de la maternelle première année non plus. En fait, moi, ce que je pense qui serait important, c'est que tous les gens, que ce soit anglophone, francophone, allophone, peu importe, le primaire, c'est en français, sans aucune exception. À partir du secondaire, oui, le libre choix. Pourquoi à partir du secondaire? Ben, c'est prouvé que au niveau psychologie, que quand on rendu à l'âge de 12 ans, là, quand tu as été élevé dans une langue, là, tu la perdras jamais à 100%. Elle est ancrée, elle est là. Donc moi, je pense que c'est hyper important, le primaire, autant pour les anglophones que les francophones que les allophones, doit se faire en français. Après ça, oui, je suis d'accord à partir du secondaire 1 pour le libre choix, parce que à quelque part, faut pas se mettre la tête là dans la terre puis jouer à l'autruche puis faire comme si moi, je trouve présentement, honnêtement, aujourd'hui au Québec en 2019, quelqu'un qui parle pas anglais-français, que ce soit un anglophone, un allophone, peu importe, c'est inacceptable. Il n'est pas obligé de parler couramment puis parfaitement, mais au moins être capable de se débrouiller dans une conversation, je trouve ça inacceptable de ne pas parler les deux langues.
Merci, Joanne, pour l'appel. Moi, Michel, je vais te demander, oui. Quand tu regardes tes enfants, là, mm-hmm. Puis tu regardes autour de toi, oui. Moi, je vais te dire, une des raisons pour lesquelles je serais hésitant à redonner le libre choix, puis je trouve ça intéressant, la proposition de Joanne.
Tu aurais peur de leur choix.
Espèce de, ben, elle dit, tu sais, le primaire, on garde ça obligatoire, mais à partir du secondaire, bon... Mais, moi, je vais te dire ce que j'observe. Ce que j'observe, c'est que les jeunes, ils sont tellement immergés oui. dans la langue anglaise à travers les jeux vidéo, Internet, la musique.
Leur culture en général, finalement.
Ben moi, je pense qu'ils apprennent l'anglais d'une certaine façon sans s'en rendre compte.
Oui.
Tu sais, il y a une espèce de, d'apprentissage de l'anglais. Tu sais, tu dis, ton gars de 12 ans, il parle mieux français que toi à pareil âge. Puis évidemment, son niveau d'anglais est bien meilleur que le tien. Là. Moi, à 12 ans, moi, je disais pas un mot d'anglais. Je venais d'un milieu complètement francophone. Ah, même chose pour toi.
Bienvenue à Alma 1970, mettons, là, oublie ça. Écoute. Il y avait un quartier anglophone l'autre bord de la... Excuse-moi l'expression. L'autre bord de la traque, où on n'allait pas. Il n'y avait pas de contact avec l'anglophone.
Non, c'est ça. C'était les patrons de l'Alcan qui restaient là, n'est-ce pas?
Oui, bon. Ou des presses.
Bon, c'est ça. Et puis de la presse.
Mais
bon.
Si on offrait aux jeunes aujourd'hui, finalement, tu as peur, c'est que leur choix premier, ça serait d'apprendre l'anglais.
C'est parce qu'ils l'attrapent, l'anglais, d'une certaine façon. Tu sais, comme on
serait content de l'améliorer, finalement.
Comme on attrape un virus, comme on attrape un microbe, ils sont tellement exposés à l'anglais qu'ils l'apprennent quasiment sans s'en rendre compte, en tout cas.
C'est un peu de notre faute aussi, parce que je lis beaucoup en anglais, je regarde beaucoup de... Je vais préférer regarder un film dans sa version originale anglaise que traduite. Mes lectures, mon cinéma, ma musique, je me sens un peu coupable parce qu'ils sont un peu envahis par l'anglais aussi, de par mon approche à moi.
Oui, mais moi, je suis pareil comme toi. Tu vois, quand j'écoute une série, mettons, sur Netflix, ou plus souvent qu'autrement, je vais l'écouter dans langue originale, puis elle va être sous-titrée, puis je vais la sous-titrer. Mettons que, tu sais, comme là, j'en écoute une en italien, je vais la sous-titrer. S'il y a le sous-titrage en français, elle va toujours choisir le sous-titrage en français, mais souvent, ils l'ont pas, malheureusement. Ouais. On va aller rejoindre Michel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous en pensez, vous?
Moi, je pense que de faire un gros plat avec ça, moi, dans mon opinion à moi, l'anglais est aussi important que le français. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine du transport. J'ai parti ma propre entreprise, ça fait 6 ans. Puis, écoute, 90% c'est en anglais. Même les bureaux à Montréal, même les bureaux, ça arrive sud, tout est anglophone, les expressions sont anglophones. Moi, j'ai rien contre ça, parce qu'écoute, fais juste sortir du Québec, là, si tu parles pas en anglais, là. Tu vas pas loin,
mettons. On est des Gaulois, il faut pas se le cacher, parce qu'on est entouré, bien sûr, on est seule province au Canada, on est bien sûr voisin des États-Unis, on est... Mon image des Gaulois, je pense que elle est bonne. Pour ça qu'on a tendance à vouloir le défendre, parce qu'on est les survivants, les je sais pas, les seuls qui peuvent encore la protéger ici en terre d'Amérique.
Un autre point de vue, c'est que moi, j'ai été à l'école en français. Mon père, il est anglophone. Ma mère est francophone. Je suis parfaitement bilingue parce que mon père, à la maison, c'était anglais. Et à l'école, c'était français. Merci, papa. Ils ont refusé. J'ai pas pu aller à l'école anglaise. Mais moi, je sais du plus profond de moi que si j'aurais été à l'école anglaise au secondaire, j'aurais été plus loin dans mes études.
Ah oui?
Pourquoi? Je vais le dire jusqu'à ma mort, ça. Ben, premièrement, le cours de français. Moi, là, en secondaire 4, quand ils m'ont mis un roman sur mon bureau, forcé à lire un roman que je comprenais absolument rien des expressions là-dedans, et après ça, aller parler devant la classe, faire un résumé de tout ça, moi, ça a fini que j'ai lâché l'école. Tout simplement, j'ai retourné aux adultes plus tard. J'étais faire mon 5 pareil, puis j'ai fait... j'ai retourné, j'avais pas le choix, là. J'étais prêt de papa, j'ai été chercher mon secondaire 5, puis je trouvais ça important. Mais c'est ça que je veux dire... quelqu'un qui parle pas en anglais, c'est comme les jeunes, là, ils écoutent les émissions en anglais, la musique en anglais. Mais on s'entend-tu que Bruce Willis, là, on veut entendre sa vraie voix pour dire que c'est un bon acteur, là. Pas un Français de France, là, dans le bout de l'Europe qui traduit, là, tu sais.
Ouais, mais on a quand même une industrie du
doublage.
Comment tu dis?
Du doublage.
Du doublage, voilà, c'est le mot que je cherchais.
Un exemple, là, la fille a fait attaquer dans un film, puis elle vous voit son agresseur, tu sais, là, c'est comme...
Ben, parce qu'en même temps qu'on a une industrie du doublage...
Michel, pour l'appel.
Oui, merci, Michel. On vient de se dire, Bernard, toi et moi, qu'on préfère toujours regarder le film dans sa version originale.
Ben oui.
Alors, tu vois,
oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, mais je veux pas l'imposer aux autres.
Ouais.
Tu comprends, s'il y en a qui préfèrent l'écouter en français avec une voix doublée, ben, tu sais, c'est...
Ben, est-ce qu'ils préfèrent aussi parce que c'est leur seul choix, parce qu'ils ne parlent que français?
Ouais,
si, mettons, t'es à la maison, puis tu veux partager un bon film, puis les gens disent, ben, écoute, moi, en anglais, je suis pas tellement fort, ben, tu vas automatiquement le mettre avec une version doublée.
Je vais le mettre en français.
Ouais.
Me le mettre en français. Mm-hmm. Si c'est ça qui. Tu sais, si, mettons.
Mais tu vois, on est là pour dire qu'il faut défendre la langue française, mais on est les premiers à écouter des films dans leur version originale d'anglais.
Dans la version originale, c'est vrai. Mais ça, pour moi, il n'y a pas de contradiction là-dedans, Michel.
Non?
Il n'y a pas de contradiction.
Ben, pas là-dedans, face à notre discours d'aujourd'hui, mais en même temps, si à chaque fois que je m'installe devant la télévision, que devant un film en anglais, puis que mon fils de 12 ans dit il n'y a pas de problème, papa, je suis pas en train de l'encourager. Ou bon parler français, je sais pas là.
Mais moi, j'essaierais de l'exposer à nos bons films et à nos bonnes séries québécoises.
Mais ça aussi, on le fait, bro. On le fait pas. On traduira pas District 31 en anglais, bien sûr. Là.
Mais ce que je veux dire, c'est que d'essayer de le priver, d'écouter, mettons, le film dans sa langue originale, que ce soit l'anglais ou une autre langue, l'anglais ou une autre langue, Michel, tu sais, qu'il soit exposé à l'espagnol, à l'italien, à d'autres langues, moi, je. Écoute, c'est pas évident. Je vais te dire franchement, là, c'est pas évident parce qu'on sait que d'apprendre une deuxième puis une troisième langue sur le plan individuel, c'est une très bonne chose.
Oui.
Mais collectivement, on veut pas non plus tout finir par. Si on finit. Moi, conclure comme ça. Si on parlait tous anglais individuellement, est-ce qu'on finirait par se parler anglais entre nous?
Arrête.
Ben, je te pose la question. Puis c'est un peu ça l'histoire du film. L'histoire du film, là, c'est ça. Tu l'as entendu au début.
Mm-hmm.
Les jeunes parlent anglais si bien qu'à un moment donné, même s'ils sont francophones, ils finissent par se parler anglais entre eux.
Oh. T'sais? Ah, ben c'est là, ça, je vois l'urgence quand tu me dis ça.
Mais c'est là qu'on tombe dans zone de danger. OK, on va s'arrêter parce qu'au retour, on veut parler d'un autre sujet.
Complètement différent.
Un chien, un golden, imaginez-vous. Un golden a mordu une petite fille. Les parents poursuivent. Mais ça nous rappelle un peu notre rapport aux animaux et aux chiens en particulier. Puis Michel a des anecdotes là-dessus, j'en ai aussi. Je vais vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé de surmonter la peur notamment d'un chien, par exemple, qui vous aurait mordu? Comment vous vous y êtes pris? Après la pause.
Drainville PM. Faut que je te raconte.
Les Golden Retrievers ont fait des farces avec ça. C'est un très, très mauvais chien de garde parce qu'il est content d'avoir la visite, même si c'est un voleur. Tu peux pas choisir la race, c'est l'individu. Puis l'agressivité, mais c'est un caractère complètement normal dans nature. Maintenant, c'est pas tellement normal dans son salon. Effectivement, l'éducation a un impact.
Voici Michel Barrette.
Alors, Michel, ça, c'était Raymond Place. C'est un vétérinaire auquel on fait affaire, avec lequel on fait affaire, à qui on fait appel quand on a besoin de parler des animaux domestiques.
Et qui explique très bien que c'est pas la race du chien, mais bien sûr, souvent le comportement du propriétaire. Et un chien, c'est un chien. Parce qu'on est toujours surpris quand on apprend qu'un Golden Retriever a mordu. Ah, mon Dieu, on dit, voyons donc, un chien gentil comme ça et tout.
Pis c'est ça, la nouvelle. La nouvelle, là, c'est Isabelle Mathieu qui nous en parle. Il y a un Golden Retriever qui a mordu un enfant de 6 ans. Ça s'est passé il y a 3 ans de ça. Ils étaient à Cabane à sucre. La petite fille s'assoit à côté du chien pour prendre une photo. Puis le chien se revire de bord, puis il a mort à la joue puis à la mâchoire. Pauvre fille. Elle est restée marquée. Les cicatrices sont encore là. Fait que là, les parents poursuivent pour 65 000 $.
Cicatrices, mais moi, c'est traumatisme aussi.
Bien, c'est évident. Elle a peur maintenant. Elle a peur. Et comme on va le faire souvent dans notre chronique, on va partir d'un élément d'actualité pour discuter de quelque chose. Moi, je pars de ça, puis je te pose la question d'abord. T'as-tu peur des chiens? T'as-tu déjà eu des mauvaises expériences avec les chiens? Et si oui, t'as-tu été capable de surmonter ta peur?
Ça a été réglé. Moi, quand j'étais jeune, j'avais peur des chiens. Entre la maison et l'école, c'était un zigzag parce qu'il y avait le chien à la maison à gauche, le chien à la maison à droite. Fait que je me promenais d'un côté à l'autre de la rue pour éviter de passer devant la maison où il y avait des chiens. Un jour, mon grand-père m'embarque dans sa voiture. Il me dit, j'ai à peu près encore 12-13 ans. Il me dit, t'as peur des chiens? Je dis non. Il dit, oui, je sais, ton père me l'a dit. Alors, il dit, on va régler ça. On est parti ici dans le quartier. Il y avait dans le quartier un chien, tu sais, au bout de sa, un chien berger allemand au bout de sa chaîne, avec la pelouse usée, là, qu'on devine que les maîtres lancent le steak quand il a faim. Là.
Un
chien...
toujours peur qu'il va te manger, que la chaîne va se briser. Il a peur que la chaîne va se briser.
Et là, il débarque de la voiture. Il m'oblige à débarquer. J'ai fait, il va pas m'obliger à aller flatter le chien. Oh non, c'est pas vrai, je veux mourir. Et là, mon grand-père, fallait le connaître, il part comme un fou en hurlant. Je le ferai pas, on est à la radio, là. Imaginez les mots qu'il va avoir dans sa bouche. Il court vers le chien en sacrant, en criant après le chien. Au début, le chien a réagi comme pour attaquer mon grand-père, mais rapidement, il s'est écrasé, il est rentré dans sa cabane. Mon grand-père, il avait la tête dans la cabane, le pied dans la cabane, il frappait, il criait après le chien. Le chien s'est écrasé. Il est revenu sur le trottoir, il me dit, dans vie, les hommes, c'est comme les chiens. S'ils savent que t'as peur de lui, t'es fait, mon homme. T'as plus jamais peur des chiens. Et depuis ce temps-là, il y a des... Ah, ça a été long, là. Au début, je courais pas après les chiens pour lui faire peur, mais ça m'est resté, depuis ce temps-là, je fais, ah, non, finalement, les chiens, mon grand-père avait raison, il était plus fou que les chiens, alors j'ai plus peur.
Tu penses-tu que ton grand-père avait déjà été vers ce chien-là, puis il connaissait déjà la réaction qu'il allait avoir?
On n'a pas le temps que je vous parle de mon grand-père, je le ferai un jour, mais c'était tellement son genre. Je veux dire...
Parce qu'un berger allemand aurait pu avoir une autre réaction. Moi,
il aurait mangé une volée. Mon grand-père l'aurait mangé. Mon grand-père l'aurait mordu. Mon grand-père lui aurait donné de la rage.
OK, fait que toi, tu crois à l'idée que si t'as pas peur du chien, le chien t'attaquera pas?
S'il sent que t'as peur... Ben peut-être qu'il, pas nécessairement qu'il va t'attaquer, mais je pense que l'animal, son instinct, s'il sent ta peur, il sent déjà la victime en toi.
Bon, regarde bien. Moi, je vais t'expliquer. Okay. Moi, j'ai déjà été mordu.
Okay? T'as été mordu?
J'ai été mordu. Ah. Bon, je passais l'Halloween, mais je me suis fait mordre. Bon.
Okay. Quelle sorte de
chien? À partir de ce moment-là, je suis resté un peu, mettons un peu rétif, un peu, tu sais, je fais pas confiance facilement aux chiens, et surtout les chiens d'attaque. Moi, je vais te dire, là, Michel, là, je croise un pitbull, je change de trottoir.
Ben, okay. Je vais t'avouer
que... Surtout si j'étais avec un de mes enfants, là, quand il était plus jeune, là, m'a dire, là, un pitbull, un chien d'attaque, Doberman, tout ce gang-là, là, je changeais de... Puis pourtant, si je raisonnais comme ton grand-père a essayé de te l'inculquer, j'aurais dû me dire, si j'y montre que j'ai pas peur, puis mettons que je suis tout seul, là, j'ai pas d'enfant, là. Si j'y montre que j'ai pas peur, il m'attaquera pas. Mais sais-tu quoi? Pas sûr à 100% de ça.
Ben, j'apporte un bémol, je suis à la même place que toi lorsque je suis dans la position. Si je suis avec mon fils ou en compagnie d'enfants, si je vois arriver un chien d'attaque, et automatiquement, je vais changer de bord de rue, je vais avoir tendance naturellement à vouloir protéger l'enfant. Même si moi, il ne me fera pas nécessairement peur, je vais avoir peur pour les enfants.
Alors, je serais curieux, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu des expériences un peu comme celles qu'on raconte. Est-ce que vous avez réussi à surmonter votre peur? Et si oui, comment vous avez réussi? Parce que moi, je vais te dire, Michel, là, sais-tu sur quoi je travaille?
Non.
Je travaille à ne pas avoir peur.
Encore?
C'est-à-dire... Non, mais oui, absolument. Puis je travaille encore à ne pas avoir peur. Je te parle par rapport pas aux chiens en général. Là, en général, les chiens, là, je veux dire, les labradors, les golden, j'ai pas de problème avec ces chiens-là, pas peur du tout. Je te parle des chiens d'attaque. Ce sur quoi je travaille, là, c'est de leur envoyer un message que j'ai pas peur d'eux autres. OK, je travaille sur ça avec l'idée un peu comme ton grand-père de dire si je finis par maîtriser cette peur-là, ils oseront pas.
Je suis curieux d'entendre les auditeurs.
Oui, 790-9850, je serais curieux. Est-ce qu'on a déjà des appels? Vincent déjà. Bonjour Vincent.
Ah oui, bonjour. C'est une courte histoire là, d'un de mes amis qui a deux pitbulls puis qu'on avait été un casse-croûte. Il y avait tout plein de monde dehors, ces tables à pique-nique. Moi, je suivais mon ami, puis lui, il avait ses deux pitbulls. Puis c'est pas mêlant, je regardais tout le monde, toutes les têtes étaient arrivées, là, les petits comme les grands, là, vers les deux chiens. Puis il y en avait toute une face qui avait peur. Mais c'était pas de même avant qu'il y ait eu ces histoires-là là, d'attaque. Là, puis je crois toujours à la thèse de « c'est le maître qui doit dresser le chien ». C'est un animal, tu sais, c'est-à-dire que c'est... C'est rien que ça, je le dis. Puis, comme je le dis, les bergers allemands, c'est une, d'après ma conjointe, c'est une bête qui est vraiment très nerveuse à la clinique vétérinaire, pire que le pitbull même. Tu sais, on n'en parle pas, là. Il n'y a pas eu d'attaque de berger allemand. Et quand ça va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à vouloir éliminer cette race-là aussi. Je veux dire, non, on a l'intelligence pour, on veut avoir des animaux de compagnie, ben, on va les dresser puis faire ce qu'il faut, là. Pas trouver une solution facile puis, plus de pitbull ou des affaires en même.
Merci Vincent. Merci. Dans le fond, ce qu'il nous dit, Michel, c'est que toutes les histoires autour des attaques de pitbull ont fini par faire peur au monde.
Ouais. Alors qu'on voit un Golden Retriever poser des
On n'a pas peur. Mais là, avec des histoires comme celle dont je te parle, peut-être que les gens vont devenir plus craintifs des Golden Retrievers.
Ou de tous les chiens en général. C'est ça qu'un chihuahua, il change pas de bord de rue, tu sais.
Non, non, ça c'est sûr, mais ils sont
agaçants. Juste apporter un T-shirt. Apporté un T-shirt sur lequel il est inscrit, j'ai pas peur de toi, puis c'est lui qui va changer.
Tu penses qu'il va se tasser?
Oui,
hein?
C'est sûr.
Kathleen, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, moi, en gros, j'ai jamais eu de chien de toute ma vie en étant plus jeune. Puis, j'ai toujours eu une crainte par rapport à ce que les autres disaient autour. J'ai jamais connu personne qui s'est fait attaquer, rien. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu une crainte. Puis, il y a quelques années, je passais des publisacs. Puis, il y a un matin, un chien qui est parti après moi comme un gros labrador noir. Mm-hmm. Il s'est rué sur moi. Il m'a pas attaqué, mais j'ai tellement eu peur. Là, j'ai eu une espèce de nom surhumain qui a sorti de mon corps. Le chien m'a jamais attaqué et tout. Je suis restée avec une crainte.
Est-ce que vous pensez que c'est votre réaction qui a fait qu'il ne vous a pas attaqué? Que c'est votre cri?
Oui, parce que j'ai vraiment eu une réaction. Il y a un nom, je pense, d'une voix quasiment masculine et très forte qui a sorti de moi. L'adrénaline a sorti, puis le chien est vraiment... il s'est calmé. Si j'aurais rien dit, je pense qu'il m'aurait carrément sauté dessus. Là, mais la réaction, j'ai eu le fait reculer. Et puis, par la suite, moi et mon mari, cette année, en septembre passé, on a eu la brillante idée d'aller se chercher deux bergers allemands. Fait que malgré la crainte que j'ai eue toute ma vie, on est allé chercher deux bébés bergers allemands.
Et?
Puis, j'ai pas fait élever nos deux chiens, on les a pas fait élever. Ouais. On les élève nous-mêmes à la maison. Le monde vient à la maison. Il n'y a aucune crainte. C'est deux pachas. Il y a du monde qui viendrait chez nous pour voler ou quoi que ce soit, puis ils resteraient couchés. Là. C'est vraiment pas des bêtes d'attaque du tout. Mais j'ai été au centre d'achat Rockland à Montréal avec elle en fin de semaine passée.
Ouais.
Puis pour la première fois, j'ai senti vraiment un gros stress chez elle. J'ai été obligée d'aller une à la fois, pas les deux en même temps. Puis j'ai senti qu'elle était hyper nerveuse parce que moi, j'étais nerveuse. Ah. J'avais tellement peur qu'ils aillent vers quelqu'un. Tu sais, je les tenais avec la laisse et tout, mais j'ai senti que leur gros stress venait de moi. Fait que je suis retournée, je suis allée marcher avec eux, je me suis calmée, je suis rentrée avec, ça allait être comme un charme après. Puis il y a comme une petite halte garderie près de l'entrée où est-ce que je suis allée. Puis il y a un petit chihuahua qui a réussi à passer entre les petites portes de la halte garderie puis qui est parti après mon chien. Ah là, j'ai eu peur que mon chien l'attaque. Mais tu sais, ça aurait été un gros chien qui aurait sorti de là, ça aurait été une panique générale. Mais le petit chien, il était parti. Puis, tu sais, vu que c'est un petit chien, on n'en fait pas de cas. Mais la réaction en tant que telle du chien était pas correcte non plus. Mon chien à moi a pas rien fait. Il a pas attaqué, il a pas réagi. J'ai gardé assise à côté de moi, elle a rien fait. Mais tu sais, juste pour dire que des fois, moi, je me promène avec mes deux bergers allemands, puis le monde, il marche loin, là. Mais tu sais, ces deux gros bébés, ils auraient jamais parti, eux, après l'autre chien comme ça, là.
Merci pour l'appel, Kathleen. Merci. Moi, tu vois, Michel, moi, ce que je retiens de son appel, c'est le chien, ses chiens sentaient qu'elle avait peur, qu'elle était nerveuse, et ils sont devenus nerveux.
Nerveux, oui.
Donc, c'est l'espèce d'instinct animal, à un moment donné, qui finit par sentir comment tu te ressens. Ce qui revient au point que je te disais. Si j'étais capable de maîtriser la peur que j'ai de certains types de chiens, je pense qu'ils sentiraient que j'ai pas peur d'eux autres et donc les risques qu'ils m'agressent, qu'ils m'attaquent, deviendraient nuls.
Alors, pour conclure,
tu comprends ce que je veux dire?
Je comprends tellement que pour conclure, je te dirais...
La maîtrise de la peur. La maîtrise. Comment on fait pour maîtriser notre peur? C'est ça, dans le fond, la question.
Je vais conclure en te disant, si mon grand-père n'était pas décédé, là, une heure en sa présence, puis tu n'aurais plus jamais peur du chien.
J'aurais fait la job, hein?
Ah! Mon grand-père est un pitbull. Merci, Bernard.
Hey, salut, Michel. On se reparle lundi. C'est Loïc qui s'en vient avec l'International dans un instant.